Ce matin, continuons notre série de messages qui s'intitule « Des questions d'éternité ». Nous avons beaucoup apprécié l'intervention de Sylvain Romerowski, donc il nous dit parler de l'état intermédiaire. Donc quand on meurt, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais maintenant parler de l'enfer. Pas un sujet joyeux, n'est-ce pas? C'est tellement affreux, accablant, douloureux et difficile comme sujet. De quoi tous nous remplir de tristesse. Mais le but de Dieu, sa parole, n'est pas de nous maintenir dans la tristesse face à ce sujet terrible. Il nous invite à porter nos regards sur la solution que nous trouvons en Jésus-Christ. Cette solution qu'il a prévue pour que nous n'allions pas en enfer. Les Juifs, à l'époque de Jésus, étaient convaincus de l'existence de l'enfer. C'était pour eux le lieu de châtiment des méchants après leur confrontation au jugement de Dieu. Ils utilisaient diverses images pour le décrire. Le feu, les ténèbres, les lamentations, etc. Certains le voyaient comme un lieu d'anéantissement, d'autres comme un lieu de tourment sans fin. C'est surprenant de voir qu'à l'époque de Jésus, les Juifs étaient très proches, en fait, de ce que signifie vraiment l'enfer. Mais aujourd'hui, quand on parle de l'enfer, plusieurs ont comme image Satan, armé de sa fourche, faisant rôtir les impies. C'est comme si c'était Satan qui dirigeait l'enfer. Ça, c'est l'image populaire. Mais ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne sur l'enfer. C'est totalement faux. Et c'est une pensée, une chose à rejeter. Aujourd'hui, dans une société qui prône la tolérance, c'est très difficile de parler de l'enfer. Comment pourrait-on accepter qu'un Dieu, soi-disant d'amour, puisse condamner des personnes à un châtiment éternel? Impensable. Nous avons ce matin besoin de saisir la pensée de Dieu. Voilà pourquoi nous allons regarder comment la Bible en parle. Pour ce message, je me suis beaucoup aidé du livre du pasteur Francis Chan, qui s'intitule « L'enfer ignoré », un livre que vous pouvez trouver dans les librairies chrétiennes. Cela va peut-être vous surprendre, mais la personne qui parle le plus de l'enfer, c'est Jésus-Christ. La personne qui a donné sa vie aussi pour qu'on n'aille pas en enfer, pour qu'on soit sauvé de l'enfer, c'est Jésus-Christ. Alors s'il y a bien une personne qui peut nous aider à comprendre ce qu'est l'enfer, c'est bien lui. Comment Jésus parle-t-il de l'enfer? Premièrement, l'enfer est un lieu de châtiment après un jugement. Dans les évangiles, Jésus se sert à 12 reprises du terme « géhenne », traduit dans d'autres versions par « enfer ». Il utilise également les images du feu et des ténèbres dans des contextes où il est question de châtiment après le jugement. Un rapide coup d'œil à ces déclarations montre que, tout comme ses contemporains juifs, Jésus croit qu'un lieu atroce de punition attend les méchants aujourd'hui. L'exemple le plus clair se trouve dans Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46. C'est le récit des évangiles le plus long et le plus détaillé à propos du jour du jugement. Jésus commence ainsi, verset 31. Donc je lis Matthieu 25, verset 31. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors, il les divisera en deux groupes. Tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs, il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, les gens s'arrêtent ici. L'événement décrit ici est le indulgents envers les pauvres et les méprisés reçoivent la vie éternelle, et les non-croyants sont condamnés au châtiment éternel. Bien que le terme enfer ne soit pas explicitement employé ici, le concept de l'enfer est transmis par les expressions verset 41, feu éternel, et verset 46, châtiment éternel. Le terme enfer est aussi utilisé dans un contexte de jugement. Donc on passe à un autre texte, Matthieu chapitre 5, versets 21 à 22. Verset 21, vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit imbécile passera devant le tribunal, et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Le Christ ne fait pas ici une vague allusion à l'enfer. Le contexte juridique de cette déclaration nous assure que Jésus fait bien référence aux conséquences du jugement. Voici encore un passage où l'enfer apparaît comme le contexte, dans le contexte du jugement à venir. Matthieu, chapitre 23, verset 33. Serpent, race de vipère, comment pouvez-vous penser que vous éviterez le châtiment de l'enfer? L'expression châtiment de l'enfer rappelle encore une fois quelque chose qui pourrait être entendu dans une salle d'audience. L'enfer est destiné aux méchants, et dans ce cas précis, on parle ici des spécialistes de la loi et des pharisiens, hein, qui vivaient vraiment dans une hypocrisie très forte. C'est un lieu de châtiment. Jésus ne se sert pas du mot enfer pour décrire les expériences douloureuses et les conséquences bien réelles d'une vie qui a rejeté la bonté et l'humanité accordée par Dieu. Oui, une vie de péché conduira certainement à des expériences terribles, ça c'est clair. Par exemple, l'envie détruit les relations. La colère mène à la violence, à la convoitise, au divorce. Cela ne fait aucun doute. Mais ce n'est pas de cela que Jésus parle ici. Quand dans un tel contexte juridique, il se sert d'expressions toutes faites comme le feu de l'enfer, il parle d'un endroit bien réel où les méchants seront punis après le jugement. Deuxième chose, l'enfer est symbolisé par du feu, des ténèbres et des lamentations. Comme ses contemporains juifs le comprenaient, le Christ se servait souvent de l'image du feu pour décrire l'enfer. Voici quelques exemples tirés de Matthieu chapitre 13. Jésus conclut ainsi sa parabole sur le blé et la mauvaise herbe. Donc Matthieu chapitre 13, verset 30. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe, liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. Ce verset en lui-même ne dit pas grand-chose. Mais Jésus va ensuite développer ce qu'il entend par ces mauvaises herbes qui brûlent. Versets 40 et 42. Comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme, donc lui-même, enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres dans le péché et ceux qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles qui l'entendent. Quelle déclaration terrifiante, difficile à encaisser. L'image des pleurs, quand les méchants seront rejetés en enfer, la fournaise ardente. Ces images sont couramment utilisées par les auteurs juifs de l'époque. Et Jésus s'adapte à son contexte. Quelques versets plus loin, il répète, verset 49, C'est ainsi que les choses se passeront à la fin du monde. Les anges viendront et sépareront les méchants d'avec les justes, et ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Dans d'autres traductions, amers regrets, c'est grincement de dents. L'enfer décrit ici n'est pas l'enfer sur terre dû à nos mauvaises décisions. C'est un lieu de châtiment où tous ceux qui commettent le mal et qui ne suivent pas Jésus au cours de leur vie seront envoyés à la fin des temps. Jésus a encore déclaré, en Matthieu chapitre 18, versets 8 à 9, « Si ta main ou ton pied cause ta chute, coupe-les et jette-les loin de toi, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main ou un seul pied que de garder tes deux mains ou tes deux pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil cause ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, loin, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que de conserver tes deux yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. » Ces images sont fortes. On sait très bien quand il donne cela, Jésus, en tout cas quand il parle de l'œil, de la main, du pied, c'est imagé pour dire à quel point il nous faut être violent pour ne pas tomber dans le péché. Donc, si c'était littéral, je pense qu'on aurait plusieurs personnes qui boitent aujourd'hui. On serait vraiment en difficulté, moi en tout cas, j'aurais peut-être du mal à lire. En tout cas, voilà, chacun aurait, là où il y a un problème, coupé quelque chose, arraché quelque chose, mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Mais les images du feu de éternel et du feu de l'enfer ne sont pas juste des images comme ça. Non, c'est vraiment des images que Dieu donne là pour nous. Jésus donne pour nous dire ce qu'est l'enfer. Et ces images qu'il donne sont habituelles aussi aux Juifs de l'époque. Jésus a utilisé ce vocabulaire courant pour transmettre son message sans ambiguïté. Aucun Juif avait besoin de se creuser les méninges pour savoir où il voulait en venir. Le feu de l'éternel, de l'enfer, est un lieu de châtiment pour tous ceux qui auront refusé de suivre Jésus-Christ. Comme certains auteurs juifs de son époque, Jésus a aussi employé l'image des ténèbres pour décrire l'enfer. Par exemple, Matthieu chapitre 8, verset 11, « Je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place à table auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux qui devaient hériter du royaume, ceux-là seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et d'amers regrets. » Pour faire référence au jour du jugement et à ses conséquences, Jésus se sert des images courantes là. Des ténèbres du dehors, des pleurs, des images qui sont très fortes. Jésus les a aussi utilisées à la fin d'une parabole qu'il a racontée juste avant de mourir. Matthieu 22, verset 13. Alors le roi dit au serviteur, prenez-le et jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Et encore dans une autre parabole, Matthieu 25, verset 30. Quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Ténèbres, pleurs, amers regrets, ou grincement de dents. Que des images très difficiles à entendre. Des images qui étaient déjà aussi utilisées par les Juifs de l'époque, à l'époque de Jésus, et dont Jésus se servait clairement. Ce qu'est l'enfer. À nouveau, comme ses contemporains du 1er siècle, Jésus fait référence à un lieu de châtiment. Et reconnaissons, c'est important, que rien dans ces passages n'offre le moindre espoir d'une deuxième, troisième ou quatrième chance de se repentir après la mort. J'aimerais être rassuré, peut-être, pour des gens que nous connaissons. Sont-ils partis? Mais aucun texte seul sait. Troisièmement, et ce sera mon dernier point, l'enfer est un lieu du châtiment éternel. Par moments, Jésus semblait sous-entendre que l'enfer ne durerait pas très longtemps. Il y a Matthieu, chapitre 10, verset 28, qui dit ceci: « Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l'enfer. » Faire périr et non brûler pour toujours, dans ce texte. Mais dans un passage important, Jésus semble parler de l'enfer comme d'un lieu de châtiment interminable, où les non-croyants connaîtront une douleur horrible, insoutenable. La déclaration la plus évocatrice, voire la seule concernant la durée de l'enfer, se trouve dans Matthieu chapitre 25. Jésus passe en revue le comportement de ceux qui n'ont pas cru en lui et qui n'ont pas agi en faisant le bien envers les pauvres et envers les méprisés. C'est un texte que nous avons lu tout à l'heure. Voici ce qu'il dit, je le cite, Matthieu 25, verset 45. « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela au moindre de ceux que voici, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. Et ils s'en iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. » Les deux expressions clés ici sont « feu éternel », »,« châtiment éternel ». Et je pense que le parallèle avec la vie éternelle fait vraiment penser à un châtiment qui durera aussi longtemps que la vie des justes. Et le livre de l'Apocalypse, je pense, renforce aussi cette vérité. Je cite Apocalypse, chapitre 14, versets 9 à 11. Celui qui adore la bête et son image, et qui accepte de recevoir sa marque sur le front et sur la main, devra aussi boire du vin de la fureur de Dieu. Et dans l'enfer, on parle aussi de colère de Dieu. Une colère qui est devant face à des personnes qui ont refusé de le suivre. Une colère qui se manifeste parce que Dieu a horreur du péché et la justice de Dieu doit tomber. Donc, il devra aussi boire du vin de la fureur de Dieu. Ce vin qui lui sera versé pur dans la coupe de la colère divine, et il souffrira des tourments dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Écoutez la suite. La fumée de leur tourment s'élèvera à perpétuité. Quiconque adore la bête et son image, quiconque accepte la marque de son nom, ne connaîtra aucun repos, ni de jour, ni de nuit. La Bible ici est claire, même si je le sais, par rapport au côté éternel de l'enfer. Ce sujet est un gros débat. Mais il me semble vraiment important que, quels que soient les débats que nous pouvons avoir sur l'enfer, nous ne devons pas amoindrir ce côté terrifiant, effrayant. Parce que la manière dont parle Jésus, on voit une fermeté très forte dans chaque texte. Et aussi dans le texte que nous avons vu dans l'Apocalypse. Je rappelle maintenant ces trois points que nous venons de voir. L'enfer, Jésus, l'enfer est un lieu de châtiment après un jugement. L'enfer est symbolisé par du feu, des ténèbres et des lamentations. Et l'enfer est un lieu de châtiment éternel. Ce qui fait mériter l'enfer, ce châtiment éternel, ce sont nos péchés. L'enfer est l'endroit pour ceux qui refusent l'amour de Dieu, qui n'acceptent pas l'œuvre de Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour eux, et qui décident, en fait, de vivre loin de Dieu. Je crois qu'il est normal d'être en difficulté avec ce sujet de l'enfer. Je peux comprendre ceux qui ont du mal à comprendre qu'un Dieu d'amour puisse envoyer ceux qui se détournent de lui en enfer. Et voici ce que l'évangéliste Billy Graham a écrit à ce sujet, que je trouve bien écrit. Je cite: « Est-ce qu'un Dieu d'amour peut envoyer un homme en enfer ?» La réponse de Jésus et les enseignements de la Bible répondent clairement oui. Il n'y envoie pas les hommes de plein gré. l'Éternel à cause de son aveuglement, son entêtement, son égoïsme et son amour du plaisir illicite. Il refuse ainsi le chemin du salut de Dieu et l'espérance d'une vie éternelle avec lui. Supposez qu'une personne soit malade et aille voir un médecin. Le médecin établit un diagnostic et prescrit un traitement. Cependant, le patient ignore les conseils du médecin et quelques jours plus tard, il y retourne en titubant et lui dit « Je ne vais pas mieux. C'est de votre faute. Alors faites quelque chose. » Dieu a prescrit un traitement pour la maladie spirituelle de l'être humain. La solution est une foi personnelle et un engagement envers Jésus-Christ. Étant donné que le traitement est de naître de nouveau, si nous le refusons délibérément, nous devons en souffrir les horribles conséquences. Fin de citation. En lisant la Bible, nous voyons très bien dans toute la Bible que Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement qu'il est venu par Jésus-Christ pour donner sa vie, afin que nous puissions ne pas aller en enfer, mais être dans sa présence, dans la présence de Dieu pour toujours. Ça, c'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que nous soyons séparés de lui. C'est pourquoi il a envoyé Jésus mourir à notre place. Il y a eu, quand on regarde ce qui s'est passé à la croix, on voit bien, même avant la croix, la souffrance de Jésus-Christ. Il y a une souffrance atroce. Jésus a porté sur lui nos péchés. Et il n'a prouvé son amour est inégalé, est immense pour nous. C'est pourquoi il nous avertit si clairement de ce qui arrivera à ceux qui sont séparés de lui en enfer. Jésus ne veut pas que nous allions en enfer. Et cela est le message fort de la Bible. Donc c'est une manière de répondre à pourquoi, comment est-ce possible qu'un Dieu d'amour puisse amener en enfer des personnes qui l'ont refusé. La réponse est, mais en fait, Dieu a donné la solution pour ne pas y aller. Il a été clair sur le sujet de l'enfer. Vivre loin de Dieu, c'est choisir de ne plus vivre dans la joie, dans la paix, l'amour, toutes les bonnes choses que nous vivons encore aujourd'hui. Un jour, ces choses ne seront plus pour ceux qui se seront pour refuser la présence de Dieu. Les gens aujourd'hui font tout leur possible, et nous le savons, pour ne pas prendre l'enfer au sérieux. Ils utilisent ce mot comme une injure inoffensive, ou des plaisanteries. Mais comme nous l'avons vu, l'enfer est une affaire très sérieuse, et c'est terrifiant. Nous ne devons pas parler de ce sujet à la légère, nous qui sommes croyants. Il y a tellement de gens autour de nous qui iront en enfer, parce qu'ils auront pris la décision de vivre loin de Dieu. Et cela doit nous attrister. Et devant un tel sujet, nous devons, pour moi, agir. Si Jésus nous a sauvés de l'enfer, remercions-le comme nous ne l'avons jamais fait auparavant. Si nous ne sommes pas en règle avec Dieu, venons à Dieu, venons à lui. Demandons-lui pardon pour nos péchés, pour nos fautes. Plaçons notre foi en Jésus-Christ pour être enfin sauvés de l'enfer et avoir une relation rétablie avec Dieu pour toujours. Et si nous avons des amis ou de la famille qui sont morts et que nous craignons qu'ils soient séparés de Dieu en enfer, nous ne pouvons rien faire. La Bible ne parle pas de prière pour les morts, ni de purgatoire. Plaçons donc notre confiance en Dieu comme étant juste et parfait. Et laissons nos proches entre les mains de Dieu. Et enfin, si nous avons des amis ou de la famille qui sont encore en vie et qui n'ont pas encore fait appel à on soit libéré. Un immense merci d'être venu sur terre par Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés et la vie éternelle. L'enfer nous révèle la gravité du mal, du péché et ta justice. L'enfer nous rappelle l'importance de venir à toi pour notre salut. L'enfer nous incite aussi à parler de toi à ceux qui ne te connaissent pas. L'enfer nous motive à vivre la vie sainte à laquelle tu nous as appelés. Merci parce que tu invites encore aujourd'hui tous les gens en tout lieu à trouver en toi leur espérance et la vie éternelle. Utilise-nous.